Moi, je me suis réveillé à l'âge de 28 ans. Je me suis rendu compte tout d'un coup de tous les schémas subtils et perfides qu'il y a eu dans toute mon enfance. Avoir vu ma mère se faire violenter par mon père, aujourd'hui, c'est une obligation. Je peux pas faire autrement. Je dois évoluer. Parce que moi, je veux pas que ça se répète. Et dans mon foyer, et dans ma nouvelle famille, et ailleurs, en fait.
Changer de rôle, un podcast sur les masculinités au théâtre. 15 comédiens et metteurs en scène de Suisse romande répondent à des questions sur leur masculinité, sa construction, la place des masculinités dans leur formation et dans leur carrière professionnelle. Aujourd'hui, épisode 1. Angelo, Pierre, François et Mathieu. Construction.
Ce qui est bien dans la proposition de... ou dans l'obligation tu me mets ou je me mets de parler de ça, il y a quelque chose que je trouve essentiel et salvateur. Et je trouve très bien. Alors bon.
Cette question, pour moi, elle est très complexe parce que la construction voudrait dire que quelqu'un a démarré un chantier pour te faire devenir comme tel. Moi, j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus perfide que ça, parce qu'en fait, c'est plutôt contextuel et environnemental. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi dans une famille, je vais dire, d'ouvriers, parce que mon père a d'abord travaillé dans les chantiers, puis après, il a travaillé à la poste. C'était les PTT à l'époque. Ma mère n'avait pas tout de suite travaillé, mais après, elle a dû commencer à travailler parce qu'il n'y avait plus d'argent. Aussi, chez les PTT, les deux ont travaillé pendant 30 ans là-bas. C'était vraiment encore, je pense, c'est les derniers à avoir travaillé 30 ans dans une boîte et à avoir tout donné de leur vie, tu vois. Et donc, ce sont des immigrés italiens de Sicile. Et je précise Sicile parce que je pense qu'au sud, il y avait quand même une différence d'éducation qu'au nord. Et en fait, là où je suis pas d'accord avec construction, et peut-être c'est ça qui fait que moi, ça me déresponsabilise un peu, je sais pas si c'est une forme de lâcheté, grandir là-dedans, c'est presque ne pas avoir le choix d'être quelqu'un d'autre. Parce que tu vois ton père d'être d'une manière et ta mère d'être une autre personne. C'est-à-dire, la mère est la mère, le père est le père, et les codes sont comme ça. La mère, elle est à la maison, au foyer, elle fait à manger et elle fait le ménage et elle se plaint tout le temps. Et le père, il va travailler de jour comme de nuit, il ramène de l'argent, puis le week-end, il veut qu'on le laisse tranquille. Ou alors, le week-end, il va voir ses potes et il se met une grosse mine, et puis la mère, elle, entre-temps, doit s'occuper encore de ses enfants. Donc, toi, tu grandis là-dedans avec des rôles bien définis. Donc, est-ce que je peux dire que je me suis construit ? Moi, je pense pas que je me suis construit. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre et je me suis dit, ça, c'est la norme.
Je me suis rendu compte, en pensant à ça, que je crois avoir eu la grande chance que de ne pas avoir été jamais contraint dans la construction de ma masculinité. J'ai grandi dans une famille, comme toutes les familles, sans doute complexe, mais quand même aimante, ce qui est une chose déjà énorme. J'ai pu grandir sans qu'on m'impose de modèle. Dans le sens où, dans ma famille, la figure de l'autorité, c'était ma mère, très clairement. Et j'avais une grande admiration pour ma mère. Quand même, je pense que j'avais de l'amour pour les deux, mais une grande admiration pour ma mère. Et depuis tout petit, j'ai toujours plutôt été ami avec les filles, plutôt attiré par les activités des filles. J'ai toujours trouvé les filles plus intéressantes et je les trouvais plus intelligentes que les garçons. Bon, ouais, c'est comme ça. Et enfant, je pouvais vraiment vivre ça bien. C'est-à-dire que, par exemple, à l'âge de 8 ans, je voulais une Barbie. Mes parents m'ont acheté une Barbie. Quand on regarde on feuillette les albums de photos, plein de photos dans les albums de famille que possèdent mes parents, où moi je suis déguisé en petite fille, je mets les robes de ma mère, les talons de ma mère, les sacs à main de ma mère, etc. C'était un cliché, mais j'étais fou de Dalida, enfin voilà. Mais j'ai pu vivre ça, je me rends compte, sans que jamais il y ait une stigmatisation de la part de mes parents. Évidemment, à l'école, il y a eu « tu cours comme une fille », toutes ces choses-là, je les ai vécues, mais ça n'a jamais été reproduit dans le schéma familial. C'est-à-dire qu'enfant, je me sentais très libre. C'est même pas que je me sentais libre, c'est qu'aujourd'hui, en y réfléchissant, je me rends compte que j'ai eu la chance d'avoir été très libre dans cette construction-là. Après, il y a eu un moment délicat, c'était le moment de l'adolescence, où après on a déménagé, on habitait Lausanne, on a déménagé à Fribourg, catholique, plus conservateur. Et au moment de la découverte, de l'identification pour moi de cette part féminine qui en fait c'était mon homosexualité que j'avais pas à nommer enfant, évidemment, que je comprenais, qui était pas à cet endroit-là, on dira. Mais à l'adolescence, quand j'ai compris que c'était de ça qu'il s'agissait, il y a eu un épisode un peu malheureux où devant une émission de télévision qui parlait d'homosexualité, ma mère m'a dit, alors que j'étais adolescent, ah, en tout cas moi, si je devais apprendre qu'un de mes fils était homosexuel, je sais pas du tout comment je réagirais. Et ça a été un moment qui m'a pour le moins mobilisé. Parce que je me suis dit, oh là là, ça va pas être simple alors, cette histoire-là.
Je suis pas capable de dire qu'il y a une masculinité chez moi qui s'est construite. Je suis pas capable de dire ça. Parce que j'ai envie de dire que j'ai été beaucoup dans un univers féminin. J'ai un parcours scolaire assez facile. Une enfance campagnarde, nord-vaudoise, protestante taiseuse. Donc sexualité, je crois que je n'en ai pas eu les mots jusqu'à 18 ans. Les pulsions, oui. Mais les mots, pour en parler, pour le dire, je ne crois pas que je les ai eus. Les modèles parentaux, c'était un couple exploitant, petit exploitant de la terre. L'homme, elle est dans les champs. La femme, elle est à la cuisine et elle s'occupe des enfants. J'ai trois frères et sœurs, on est quatre. Donc il y avait du boulot. Et puis, il y a des heures de boulot et puis il faut tout faire. Effectivement, le travail était très partagé. Maintenant, c'est une cellule économique, c'est une organisation où je ne peux pas vraiment y mettre, tel que je l'ai traversé en tout cas, le mot « oh, on est dans une société patriarcale, ancienne, antique, où la femme est dominée par l'homme ». Non, il n'y a pas de domination, il y a une collaboration. Effectivement, avec un partage des tâches qui est très classique. Enfin, je dirais même pas à la maison, puisque la maison, elle appartient aux deux. La femme à l'intérieur, l'homme qui est sur les machines, dans le travail de force. C'était une organisation économique qui est essentielle, de base, de survie. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y avait pas la place pour ma mère, qui venait d'un autre milieu, qui avait fait un apprentissage de téléphoniste, qui aurait pu aller ailleurs que rester dans cette terre un peu boueuse du Nord-Vaudois. Elle aurait pu, d'ailleurs, à la fin de sa vie, elle est morte 10 ans après mon père, elle a manifesté des bribes de ça, des bribes, en disant, ouais, ce choix, rester à la campagne, c'est pas quelque chose qui... Enfin voilà, je dis, on sentait qu'il y avait quand même un certain regret de ça, quand, à revoir un peu le parcours de sa vie. Je veux dire, je me rends compte aussi, je suis né en 54, rien à cacher, donc je suis quand même troisième âge maintenant, retraité, et où je me rends compte que dans ce rapport homme-femme, effectivement, il y avait des choses qui se jouaient. Le droit de vote des femmes en Suisse, c'est 71. 71, j'avais 17 ans. Il y avait une masculinité, une féminité, ou un rôle masculin, un rôle féminin, qui était rempli par le mâle et la femelle. Les genres étaient posés. Mais moi, tel que j'ai traversé l'enfance, c'est surtout... j'étais pas l'aîné. Donc dans cette société-là et dans cette cellule familiale-là, type, c'était, comme au 19e siècle, l'aîné qui devait reprendre tout ça et puis continuer la tâche. Mon père avait repris de son père, il avait le même prénom d'ailleurs. Et puis, je veux dire, il y avait une espèce de conviction, de fatalité sociale, je ne sais pas comment l'appeler, que ça allait continuer comme ça. Et que, de toute façon, il y avait peu de chances d'aller ailleurs.
Alors moi, j'ai grandi dans une famille à Genève, deux parents qui étaient ensemble dans un petit appartement dans le centre-ville genevois, comme ça. Mes parents, ils ont eu 20 ans en 68. Et ils étaient étudiants, donc ils étaient forcément imprégnés de tout ce qui se passait à ce moment-là en Europe, je crois. Hein. Et eux, en tout cas, étaient des militants de gauche assez convaincus, en tout cas en rupture avec les modèles patriarcaux de l'époque et d'éducation et tout ce qu'ils percevaient comme un carcan et quelque chose à faire exploser comme ça. Et donc, j'ai grandi dans une famille avec beaucoup d'idéaux de ces idéaux-là, quoi, des idéaux de liberté, d'égalité, de respect. C'était, je crois, assez présent dans l'éducation. Ça imprégnait la vie quotidienne comme ça. Donc il y avait tous ces idéaux-là qui circulaient, si je me souviens bien. Le féminisme, il était aussi dans ces valeurs-là. Hein. Ma mère nous a raconté, je ne sais pas combien de fois, toute l'histoire de l'acquisition du droit de vote, qui a eu lieu pas très longtemps à ma naissance, ou juste après. Et ouais, la lutte, moi j'avais quand même raconté ça, j'avais l'impression que c'était elle qui l'avait acquis, quoi, que c'était le combat de mes parents qui avait pu obtenir ça. Enfin, c'est tout un mouvement beaucoup plus large, mais eux, probablement qu'ils ont fait des trucs là-dedans, ils ont récolté des signatures ou je ne sais pas quoi. quand j'étais enfant, on parlait de ça à la maison, qu'il y a un problème de domination des hommes sur les femmes. Je me rappelle tout le temps d'avoir entendu ça. Je me faisais engueuler quand j'avais pas des comportements très bien avec ça. Je savais qu'il y a quelque chose qui allait pas correctement dans la société. Je savais que mes parents avaient fait quelque chose pour changer un truc juste avant ma naissance. C'était assez quotidien, ça. Aussi, mes parents, ils avaient un mode d'éducation comme ça, assez inspiré des idéaux 68ards et comme ça, où moi, j'étais assez peu cadré. Ils refusaient assez de m'obliger à dire merci et bonjour. Et alors, j'avais des parents de mes copains qui étaient toujours vachement pas contents parce que j'étais hyper impoli. Voilà, je pars de là, quoi, moi, avec quelque chose de départ, je crois, sur le féminisme et la masculinité qui peut être problématique au sens de la construction sociale, comme ça, du rôle qu'on nous donne dans la société, même si, comme enfant, tu n'utilises pas ces mots-là, hein, mais je crois que c'était assez présent.
Ma masculinité, elle s'est faite inévitablement par la famille dans laquelle je suis né. Après, est-ce que mon père a voulu que je sois comme ça? Non, ma mère a voulu que je sois comme ça, je pense pas. Ma mère et mon père étaient tellement inquiets à l'obtention d'argent que leur seule idée, c'était de pouvoir manger et vivre un petit peu, convenablement. Donc en fait, les enfants, là-dedans, on fait des enfants parce que c'est le truc qu'on fait quand on se marie. Et d'ailleurs, mes parents, s'ils voulaient être ensemble, ils devaient fuir. À l'époque, on appelait ça comme ça. Ça veut dire que chacun quitte le foyer, se met ensemble, mais pour se mettre ensemble, ils doivent se marier et faire des enfants. Sinon, ça n'a pas de lieu d'être. Donc nous, on atterrit là. Est-ce qu'on a vraiment été voulu? C'est pour ça que cette idée de construction, moi, je crois que c'est plus qu'est-ce qu'on a observé en tant qu'enfant. Et on s'est dit, OK, une mère, c'est comme ça. Un père, c'est comme ça. La mère, c'est une femme. Le père, c'est un homme. L'homme, lui, il ramène l'argent. La femme, elle reste à la maison. La mère, elle est douce, elle est maternelle. Elle donne le lait. C'est comme
ça. Il n'y avait pas de modèle. Il n'y avait pas de modèle réel. Il y avait des modèles de fiction à la télévision, etc. D'hommes homosexuels. Mais dans mon entourage, il n'y en avait pas. Et dans le canton de Fribourg, il y en avait un, c'était Pépino, un garçon de café au Petit Rex à Fribourg. Heureusement, c'était une de ces grandes figures de Fribourg que tout le monde connaissait, que tout le monde appréciait, donc, mais très efféminé. Et donc, c'était une figure possible, réelle, mais quand même un cliché, on dira. Et donc, je pensais être l'autre seul homosexuel du canton de Fribourg. Donc, ça me mettait beaucoup de pression sur les épaules. Et à ce moment-là, on avait des histoires de famille qui n'étaient pas toujours très simples. Et donc, comme j'étais l'aîné, je me devais aussi de porter une sorte d'équilibre. Voilà. Donc l'histoire de l'homosexualité est devenue un truc assez complexe. À ce moment-là, évidemment, l'adolescence, c'est aussi l'âge, non pas seulement des premiers émois, mais chez moi, c'était des premières passions, malheureuses, mais des passions, quoi, fortes. Donc en plus, c'était très fort ce qui se passait dans mon cœur et du coup, très fort ce qui se passait dans ma tête aussi. À ce moment-là, je pense que ce qui a été très aidant, ça n'a pas été des figures. Il y en a une, et ça, puisqu'on peut en parler, parce que souvent, on parle de la cage aux folles comme étant un modèle qui a été ravageur pour certains homosexuels. Moi, je dois dire que le fait que ce film existe et qu'il passe à la télé et que tout le monde le regarde, ça a été plutôt quelque chose d'aidant, non pas à cause de la figure de Michel Serrault, mais la figure de Hugo Tognazzi, qui est l'homme, entre beaucoup de guillemets, normal du couple, celui qui n'est pas efféminé, etc. Le fait de savoir qu'il y avait ça qui passait à la télé, que tout le monde riait, qu'on pouvait apprécier ça, ça a été une figure quand même aidante, dans le sens où je pouvais voir quelqu'un vivre, entre beaucoup de guillemets, son homosexualité sans avoir besoin d'être travesti en femme et de pouvoir vivre sa vie. Voilà. Donc Hugo Tognazzi, La cage aux folles, contrairement à tout ce qu'on peut croire, a quand même été aidante.
Vers 21 ans, j'ai vu un film des frères Coen qui s'appelle The Big Lebowski. Et le dude, là, le personnage principal du film, m'a énormément inspiré longtemps parce qu'il a l'air de gérer vachement bien ses émotions et surtout l'anxiété. Moi, je suis quelqu'un aussi d'anxieux, d'angoissé. Je fais des scénarios catastrophes. J'ai de la peine à vivre les choses comme ça sereinement. Et le dude, il me paraissait tellement bien pour ça, quoi. Il travaille pas et il a de l'argent, en fait. On peut arrêter de bosser, ça va très bien. Et ça, c'est vraiment une figure... Encore maintenant, hein, je le convoque souvent, le dude, pour tenter d'évacuer l'anxiété comme ça.
Mais à côté de ça, plus tard, ça a été vraiment la découverte, alors plutôt de la littérature et Rimbaud, Verlaine, des modèles comme ça, quoi. Évidemment, André Gide, et notamment Coridon d'André Gide, ou des phrases comme Montaigne, la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Enfin bref, la littérature a été une aide plus que des figures, disons, de fictives, de personnages comme ça.
on regardait souvent la télé. La télé, c'était le nouvel objet de l'époque. Tu sais, dans les années 90, mon père était tout le temps devant la télé. Ma mère à la cuisine, mon père devant la télé. Donc tu dis, bon bah, le père, oui, c'est cliché, mais c'est la réalité. Le mec, il mettait ses pieds sur la table basse, ma mère, elle passait l'aspirateur en dessous. Quand elle partait, elle pouvait remettre ses jambes tranquillement. J'ai grandi devant la télé avec mon père. Alors déjà, il regardait tout le temps Ben-Hur. Et je pense qu'il l'a regardé, peut-être je déconne pas, 1000 fois. Il regardait tout le temps Ben-Hur. Pour moi, c'était un film de vieux, quoi, tu vois. Tous ses corps, mis comme ça, l'amitié, mais bien sûr. Mon père jamais s'est dit c'était un film homosexuel, tu vois, homo-érotique, tu vois. Et pourtant, il regardait tout le temps ça. Alors on va savoir. Inconsciemment, j'en sais rien, tu vois, ça pourrait être assez drôle. Il aimait bien aussi, donc c'est ça qui me faisait le plus rire. Il adorait les films de Bruce Lee. Ce mec qui venait sauver le monde avec son art martial, bam bam, il démontait tout le monde, c'était magnifique. Et regardez aussi Bud Spencer et Terence Hill. Je te jure, on les avait tous. Et Rocky aussi, tout le temps. Donc ouais, c'est souvent des figures masculines. Mais là, j'ai quand même envie de dire, c'est pas forcément la faute à mon père. J'ai envie de dire quand même, c'est la faute au cinéma, c'est la faute à la télé. Parce que tous ces gens qui écrivaient les scénarii, ils écrivaient des histoires, c'était des hommes, les héros. Donc toi, tu grandis avec ça, puis tu dis, bon bah voilà, le protagoniste, c'est toujours le protagoniste. Ça peut pas être la protagoniste. Mais quand t'es enfant, tu dis, bon bah c'est ça. Les mangas, c'est pareil, moi je kiffe trop les mangas. Hein. Les mangas, c'est Dragon Ball, quoi. Donc Dragon Ball, c'est quoi? C'est des mecs hyper musclés, qui vont super vite, qui sont super forts, qui sauvent le monde. Puis les meufs, qui sont secondaires et qui ont des seins comme hack. Et puis des corps de ouf qui sont pas du tout. Elles sont occidentales sur leur visage, tu vois. Tout le monde est occidental d'ailleurs, c'est ça qui est assez drôle. Mais je m'en suis jamais fait un modèle par contre. Quoique Bud Spencer, je le kiffais bien. Les gifles qu'il mettait, moi ça, je trouvais ça incroyable. Vraiment, j'étais là, mais c'est génial. Tu mets une gifle, le gars il est à terre, quoi. C'est trop beau. C'est juste que tu trouves ça magique. Tu dis pas que tu veux être violent, mais tu trouves ça magique.
Mes copains d'école, mon meilleur copain d'école, à 14 ans, il venait déjà plus à l'école, il devait travailler, il y avait du boulot à la ferme, il y en a toujours eu, il venait plus à l'école, et puis on savait qu'il allait reprendre, il a repris, il a passé à ses fils, et tout ça. Donc je veux dire, j'étais dans un milieu où il y avait cette suite-là, et puis après, les filles, elles faisaient une école d'infirmière, les garçons, éventuellement, un apprentissage. Mais j'ai fait la primaire, puis la primaire supérieure, parce que j'étais un peu bon, et en primaire supérieure, là j'ai eu un prof qui tout à coup a cru en moi et m'a envoyé, lui, sur une classe de raccordement qui m'a permis de rentrer au gymnase pour passer un bac, une maturité. J'étais au conservatoire, je faisais un peu de musique, le piano, donc après je suis rentré dans le monde théâtral. Sans pouvoir d'ailleurs l'annoncer tout de suite à mes parents que je ne suivais plus les cours de biologie à Dorigny, mais des cours de théâtre, et je l'ai annoncé que... Quand j'ai travaillé pour la première fois, j'étais engagé au TPR, deuxième année de l'un, où tout à coup, je gagnais de l'argent. J'ai dit à mon père, je gagnais de l'argent. Et quand je lui ai dit mon salaire, qui était très modeste à l'époque, je pense que ce que je gagnais, il ne l'a jamais gagné dans le mois. Donc, j'ai été dans une configuration aussi où, dans mon enfance, la quête n'était pas une quête de masculinité, c'était une quête d'identité, tout simplement, d'identité. Parce que je ne me reconnaissais pas. Si je me reconnaissais, j'ai été très heureux dans cette enfance-là et dans cette campagne-là. Mais je ne me destinais pas à le reproduire, ce monde-là, ni familialement, ni professionnellement. J'avais une envie d'en sortir, une envie encouragée par des gens autour de moi. Et donc peut-être par les études, par autre chose, par partir. Donc je suis parti à Lausanne, effectivement ça m'a extrait de ce monde-là, et tout à coup m'a permis d'autres rencontres et un autre regard aussi sur la
société. Tu grandis dans un environnement patriarcal, c'est lui qui a le plein pouvoir, et tout ce que je fais autour, en fait, ça a un sens. Je fais du foot, il aime le foot. J'aime me bagarrer, je vois qu'il est violent, je me dis, bon, bah, ça a un sens. Tout ça, c'est la même grosse vague, quoi. Ouais, un autre truc que... Tu vois, le mot séduction aussi. Moi, j'ai grandi toute ma vie dans un rapport homme-femme, dans la séduction. J'ai vu que ça. Il était hyper important de collectionner les femmes. J'ai pas forcément vu mon père collectionner des femmes. Mais c'est drôle, je pense qu'avec les potes, c'est comme ça qu'on s'est... Et dans les films, sûrement. Tu vois, un James Bond, par exemple, finit toujours avec une meuf, quoi. C'est toujours l'homme, Indiana Jones, finit avec une meuf à la fin. Bruce Lee, non. Bruce Lee, non. Bruce Lee, il pète la gueule à Chuck Norris et puis c'est réglé, quoi. C'est peut-être déjà plus sain.
J'ai jamais été à l'aise dans les vestiaires de gym. Quand on est garçon, il y a ce truc un peu où on montre ses burnes et où on compare la taille de son sexe ou quoi. Moi, montrer ça, à cause d'une bête cicatrice, il y a un truc où je détestais ça. Moi, ça allait pas du tout. Donc je trouvais toujours 1000 excuses pour pas le faire.
Dans notre quartier, c'est
ce genre de compétition-là.
Tu grandis aussi dans le foot. Le football, c'est en tout cas à l'époque essentiellement un sport masculin. Donc t'es dans les vestiaires, tout le monde se met à poil, mais c'est bizarre ça qui est assez drôle. Tout le monde se met à poil dans le vestiaire. C'était très paradoxal tout ça. Tu pouvais te mettre à poil dans un vestiaire, mais par contre après fallait pas parler de tes sentiments. Tu vois, il y a un truc bizarre.
Je crois que mes parents ont tenté dans leur éducation de beaucoup ouvrir la parole. J'avais à la maison, on pouvait parler de n'importe quoi, on pouvait poser des questions, on pouvait discuter, ils répondaient, prenaient du temps à répondre, bien, on parlait pas mal. Mais je crois pas qu'ils nous ont donné beaucoup d'outils de gestion des émotions. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir grandi comme jeune adulte avec un réflexe de mettre un couvercle sur la marmite émotionnelle quand elle boue, quoi.
Mais le moment, évidemment, qui a été déterminant pour la construction vraiment de ma masculinité, ça a été le coming out. C'est-à-dire que c'est le moment où j'ai pu vraiment affirmer la masculinité qui était la mienne. C'est-à-dire, voilà, je suis un homme qui n'est pas de désir de me travestir ou quoi. Je suis, voilà, un homme homosexuel. Mais le moment où j'ai pu l'avouer à ma famille, c'était le moment où j'ai su qu'ensuite j'allais pouvoir affirmer cette figure-là dans ma vie réelle.
J'ai quitté ce monde-là et j'y revenais régulièrement. J'ai vu, effectivement, après tous ces gens que je connaissais bien, ou ces copains, qui étaient dans des sociétés de jeunes paysans, il n'y avait aucune fille. D'un coup, dans un bal, j'ai vu un mec casser la gueule à un autre parce que, à moitié bourré, il lui avait touché les fesses, en disant un espèce de pédé. Tout à coup, il y avait des espèces de choses qui sortaient, mais beaucoup plus tard. Des constructions très masculines, parce que c'était des jeunes gens de 17, 18 ans qui devaient faire les hommes, quoi, et qui se bourraient la gueule et qui fumaient 3 paquets de cigarettes. J'ai vu des espaces réservés aussi, des espaces réservés pour les hommes, des espaces réservés pour les femmes.
Je pense que mes parents n'ont pas vraiment su faire autre chose. Je ne sais même pas si c'était dans leur viseur à ce moment-là. L'école ne s'en occupait pas. J'ai l'impression que maintenant, les profs à l'école primaire, ils ont plus d'outils pour nommer les émotions, donner des petits outils aux enfants et tout ça. Mais moi, si je me rappelle bien, c'était inexistant à l'école. Donc voilà, donc pour résumer tout ça, sur comment s'est construit ma masculinité dans mes souvenirs d'enfance, je crois que j'étais assez peu sous pression de la part de mes référents principaux, hein, mes parents, j'étais assez peu sous pression, assez libre de poser des questions, de faire mes choix, mais que j'ai quand même reçu le modèle dominant sociétal comme ça, très fort par tous ces canaux.
Jusque-là, c'était... j'essayais de bricoler, quoi. Je lisais... Oui, Gide sous le manteau, hein, pareil. J'ai vraiment des souvenirs très précis de lire Coridon de Gide, où il parle de l'homosexualité. Je le lisais en cachette dans les couloirs. Je le cachais dans ma chambre. Ou parfois, je l'abandonnais négligemment, volontairement, sur la table de nuit, en espérant que peut-être ma mère, en regardant, se dise « Ah, mais en fait... » Enfin, voilà. J'ai lancé des signaux, évidemment, par André Gide interposé, mais... Ensuite, ça a été... tellement plus simple que de pouvoir vivre, vraiment d'assumer ma masculinité. Mais donc, le fait de pouvoir réfléchir à tout ça, je me rends compte que ce qui a été très aidant pour la construction de ma masculinité à moi, c'est d'avoir eu des jugements extérieurs, mais dans le noyau familial, d'avoir eu quand même, à part cet appel au secours, en fait, que me lançait ma mère. Parce qu'en fait, on en a parlé plus tard. Quand elle m'a dit avoir dit ça devant la télévision, c'est parce que elle essayait de susciter une réaction chez moi. Et elle a toujours dit, je regrette tellement, parce que c'est resté pour elle comme pour moi, en fait, un moment clé, ce moment-là. Elle s'est dit, mais pourquoi j'ai merdé aussi fort? Pourquoi je l'ai pris par cet angle-là? Mais elle a dit, j'ai dit les mots qui étaient possibles pour moi à ce moment-là. Donc, évidemment, on en a reparlé, c'est très clair. Mais donc, j'ai eu la chance de pouvoir visiter aussi des aspects de la masculinité qui n'étaient pas les aspects habituels ou communs ou attendus. Et ça, je remercie encore aujourd'hui mes parents pour ça. Parce qu'on n'a pas exigé de moi que je fasse les clichés, quoi, du foot ou des choses comme ça. Moi, j'avais envie de faire d'autres trucs, jouer à l'élastique avec les filles. Et ça, j'ai jamais été jugé par le noyau familial pour ça.
Je ne savais même pas ce que ça voulait dire se conformer ou s'en éloigner, puisque je n'avais pas encore ma propre vision des choses. Je l'ai eu très tard, ma propre vision des choses. Réellement, quand j'ai quitté mon travail à l'époque de trader quand j'avais 28 ans, je pense que c'est là où j'ai fait le premier pas de m'éloigner de ce modèle-là. Mais t'as vu, ça a pris énormément de temps. 28 ans. T'as vu, je me suis dit, mais en fait, je fais ce job parce qu'en fait, mon père m'a toujours dit, faut ramener de l'argent. L'argent, c'est le plus important. Et il mettait des claques en même temps dans la gueule de ma mère et il la traînait par terre et il disait, l'argent, l'argent. Tu sais qu'une fois, il a carrément démonté ma mère parce qu'elle est revenue avec les courses, il a vérifié le ticket de caisse, il était trop grand, il a vérifié ce qu'elle a acheté, il y avait des choses qu'il fallait pas acheter. Bam, il l'a démonté. Parce que le jour où je lui dis je quitte mon travail, je veux devenir comédien, je peux te dire, le mec il était blanc. En plus c'est drôle parce qu'une année après, mon frère il annonçait qu'il est homosexuel. Le gars il a tout eu dans sa gueule en une année, c'était magnifique. En fait aujourd'hui, moi qui essaye de briser cette chaîne, moi j'appelle ça la chaîne de la violence parce que ça la transmet. Et bah briser cette chaîne, ça fait extrêmement peur et parce qu'en fait, tous les repères sur lesquels on s'est construit se détruisent, s'effritent l'un après l'autre. Et en fait, ton identité, ta masculinité, bah, tout est remis en cause. Je pense qu'on est obligé de le faire si on veut évoluer. Sinon, tu vas t'arrêter à un endroit, tu vas devenir vieux, con, aigri et violent, et ainsi de suite. Et en fait, tu vas répéter le même schéma que ton père, que ci, que ça, et en fait, à quoi bon, quoi. Moi, je dis que mon père, c'est comme un sacrifié, et que sa vie, elle va me servir. Sinon, je vois pas l'intérêt.
Un peu avant le mouvement MeToo, avec Mickaël, un jour, donc Mickaël, l'homme de ma vie, un jour, on était dans le métro à Paris, à discuter avec une femme qui s'est fait mettre la main aux fesses devant nous. Et on a été très choqués par ça. Et en parlant avec elle, elle a dit « Ah oui, mais vous savez, ça arrive tout le temps. » Et ça m'a vraiment encore plus choqué que la main aux fesses. Parce qu'on a échangé avec elle en disant « Mais comment ça tout le temps ?» Elle a dit « Bah oui, dans le métro, ça arrive tout le temps. Et puis les gens qui nous sifflent, les gens qui nous traitent de salopes et tout ça. » Donc ça, c'est vraiment, je pense, 2 ans avant MeToo. Mais moi, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment choqué. Je me suis dit « Mais quelle violence alors que de vivre à Paris ?» Mais après, elle m'a dit « Mais c'est pas qu'à Paris, c'est partout comme ça. » Et là, j'ai fait moi ma petite enquête auprès des personnes de mon entourage, des femmes de mon entourage, de ma famille, de mes amis, de mes collègues. Et là, j'ai été mais vraiment violemment choqué d'apprendre que c'était le lot de tout le monde. Que toutes les filles de mon entourage m'ont dit « bah oui, ça m'est arrivé ». Alors, avec des fréquences diverses, selon où elles habitaient, ou l'âge qu'elles avaient, etc. Mais n'empêche, toutes m'ont dit « oui, ça m'est arrivé ». Et là, j'avoue que j'ai eu une honte profonde pour mon genre, d'une part, en me disant « mais c'est ça qu'on fait, nous autres, les mecs, quelle honte !» mais vraiment une honte profonde de ne pas avoir eu conscience de ça plus tôt. C'est-à-dire d'avoir vécu, mais vraiment comme un bleu toutes ces années, sans jamais avoir pris conscience de ça. Et honnêtement, encore aujourd'hui, si j'essaie de redérouler ce qui s'est passé, À part justement au Conservatoire de Lausanne, où là c'était effectivement sous nos yeux, ou en tout cas que ça se passait, mais sinon j'ai pas pris conscience de la violence avec laquelle les femmes devaient forger leur identité dans notre monde.
C'était Changer de rôle, un podcast sur les masculinités au théâtre. Au micro aujourd'hui, Angelo, Pierre, François et Mathieu. Changer de rôle, un podcast de Jérôme Richer, avec à la musique et au montage, Frédéric Jarabeau. Dans le prochain épisode, Nadim, Lionel, Ludovic, Adriane et Fidèle. À bientôt.
Radio Bascule.